Bonjour Bertrand Tavernier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On a diffusé ce Western Blues par Louis Armstrong avec le Hot Fives, enregistré en 1928 à Chicago. C'était votre choix musical. Ce qu'on vient d'entendre, c'est une déclaration d'amour au jazz, au blues.
C'était une déclaration d'amour au jazz, au blues. J'avais mis ce morceau quand je n'avais pas compris qu'il fallait que choisir des morceaux de musique de film, parce que c'est un morceau sublime. C'est un morceau, à l'époque, totalement, et qu'il est resté révolutionnaire, où il n'y a pas une note qui ne soit pas géniale. C'était d'ailleurs un des solos d'Armstrong que Miles Davis vénérait. Il disait, on n'a jamais fait mieux que ça.
Vous êtes cinéaste, Bertrand Tavernier, oui. Vous êtes critique, vous êtes président de l'Institut Lumière, on vous connaît comme tel, on vous connaît aussi comme étant l'une des plus belles mémoires du cinéma français. Votre dernier film est un voyage à travers le cinéma français, on peut le trouver encore en DVD. Et donc, vous êtes aussi un grand mélomane. C'est quand même tout naturellement donc que Radio France a pensé à vous pour concevoir tout un week-end consacré à la musique de film, qu'on peut d'ailleurs imaginer ou penser comme la bande-son de votre dernier voyage à travers le cinéma français, d'une certaine façon.
Des voyages, parce qu'il y a non seulement le long-métrage, le voyage, puis il y a Voyage au pluriel, qui est une série de 8 épisodes dans lequel je reviens aussi beaucoup sur la musique et sur les chansons et sur les chansons écrites par les metteurs en scène, qui est une des grandes spécificités du cinéma français, puisque René Clair, Duvivier, Renoir, Guitry ont écrit des chansons jusqu'à Agnès Varda, Jacques Demy, voire Jean-Luc Godard, Louis Malle. Tout ça ont écrit des paroles de chansons. Certains ont même écrit la musique, comme Jean Grémillon. Donc oui, c'est en travaillant sur à la fois ce long métrage et puis ces 8 épisodes, j'ai constaté que les compositeurs étaient souvent les grands absents des histoires de cinéma. Ils étaient même souvent les grands absents des catalogues de disques, puisqu'il y avait un certain nombre de partitions extraordinaires qui étaient introuvables en France, alors qu'on pouvait trouver pratiquement toutes les grandes partitions du cinéma américain.
Comment l'expliquer ? Ces trésors musicaux qui ont disparu.
Le fait que la musique de film en France n'était pas financée par les producteurs, mais par les éditeurs. Alors, si un éditeur disparaissait, ou s'il revendait son catalogue à une société internationale qui n'avait pas spécialement d'intérêt pour ce répertoire, bien, on se débarrassait des partitions, c'était quelque chose d'encombrant, ça occupait de la place. Alors pourquoi garder les partitions de Cosma ? Pourquoi garder des partitions de Jean-Jacques Grunenwald ?
Ça veut dire que les musiques n'existaient pas ou n'étaient pas considérées, et peut-être encore aujourd'hui, comme existant à part entière, comme art majeur, en dehors des films.
Elles auraient dû, la loi obligeait qu'une œuvre ait une exploitation suivie. Mais quand il n'y a pas de partition, vous ne pouvez pas exploiter l'œuvre. Et il a fallu pour ces concerts, par exemple, que Bruno Fontaine reconstitue à l'oreille la partition de la Grande Illusion.
Oui, c'est le cas pour ce grand film, oui. Très grand film à vos yeux, très grand film soi de Renoir. La partition avait complètement disparu.
La partition avait disparu. C'est le film français le plus célèbre à l'étranger, le plus célèbre de tous les temps. Impossible de jouer la musique de ce film.
Mais donc, Bertrand Tavernier, le pianiste, chef d'orchestre et compositeur Bruno Fontaine, qui était là hier soir à Radio France dans l'auditorium, a joué hier soir lors de ce premier concert donné ces 3 jours à Radio France. Pour la première fois, c'est une création mondiale, la partition de La Grande Illusion. On va écouter La Grande Illusion, musique de Joseph Cosma.
Thank you.
partition perdue, Bertrand Tavernier, impossible à trouver avant que François Truffaut ne s'en occupe. C'est la musique de L'Atalante, composée par Maurice Jaubert, film de Jean Vigo. Arrangement de Bruno Coulet qu'on trouve dans votre CD de voyage à travers le cinéma français.
Oui, je tenais vraiment beaucoup à ce qu'on écoute, y compris dans mon documentaire, un bout de cette musique extraordinaire. Je pense que L'Atalante est une des plus grandes partitions des années 30. Je pense que Jaubert est le plus grand compositeur de musique.
Ah, je croyais que vous alliez dire André Dutilleux.
Non, mais Henri Dutilleux, c'est plus tard. Je parle des années 30, puisque
Jaubert
va mourir très jeune en 1940. Va mourir alors qu'il avait devant lui toute sa carrière. Et il laisse les musiques extraordinaires de Quai des Brumes, du Jour se lève, de tous les films de Carnet, de La fin du jour ou de Carnet de bal de Duvivier. Des musiques extraordinaires, extraordinaires. Et donc L'Atalante qui est, ou je sais pas, il comprend, c'est une musique qui comprend le génie de Vigo. Il sent à la fois le côté populaire, il capture le monde, c'était le monde ouvrier que Vigo est en train de décrire. Il capture aussi le lyrisme, les élans d'émotion de Vigo. Je crois que c'est une musique vraiment, vraiment, vraiment géniale.
Et donc on peut entendre désormais, grâce aux arrangements de Bruno Coulet. Bertrand Tavernier, c'est aussi ses voyages à travers le cinéma français par la musique de film. C'est aussi un voyage à travers les relations entre les réalisateurs et les compositeurs. Vous disiez justement, en l'occurrence pour Maurice Jaubert, avec cette musique de L'Atalante, qu'il a compris le génie de Vigo. Vous avez travaillé avec des nombreux compositeurs, Antoine Duhamel, Bruno Coulet précisément, Philippe Sard, Louis Clavis, Henri Texier. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme réalisateur, du compositeur ? À quel moment intervient la musique et de quelle façon ?
Je travaille avec un compositeur très très tôt, dès le scénario. Dès le scénario, et j'attends d'un compositeur qu'il m'étonne. Non pas qu'il commente le film, mais tout d'un coup qu'il me fasse découvrir des zones émotionnelles auxquelles je n'avais pas pensé. Tout d'un coup, qui m'amène quelque chose de plus. Philippe Sard se définissait moins comme un compositeur que comme un scénariste musical. Je trouve que c'est une assez bonne définition. Je pense que la musique ne doit pas commenter de manière pléonastique le film, ce qu'elle fait souvent, notamment dans le cinéma américain où on a l'impression qu'on a affaire à 130 minutes de musique sur un film de 110 minutes. La musique, elle doit arriver, elle doit tout d'un coup jeter un coup de projecteur sur quelque chose qui n'a pas été exploré par le dialogue ou par le jeu d'acteur. Elle doit prolonger une émotion. Et moi, j'ai eu des moments de bonheur, que ce soit avec Antoine Duhamel, que ce soit avec Philippe Sard ou avec Marco Beltrami dans La Brume électrique. À chaque fois, je pense qu'il n'y a pas eu un moment, un film que j'ai fait, où je n'ai pas éprouvé une joie immense pendant l'enregistrement de la musique.
Est-ce qu'il y a eu, Bertrand Tavernier, dans l'évolution des bandes originales de films et des relations d'ailleurs entre les compositeurs et les réalisateurs, des ruptures dans l'histoire du cinéma ou des grands changements qui ont accompagné musicalement l'histoire du cinéma au moment peut-être de la Nouvelle Vague, par exemple?
Oui et non. Dans la Nouvelle Vague, il y a une nouvelle génération de compositeurs, mais Godard, par exemple, va faire appel à Paul Misraki. Ce sera le seul musicien de la génération précédente qui va faire le lien, parce qu'il a travaillé avec Wells. Alors comme il a travaillé avec Wells, cela lui donne une aura aux yeux de Godard, et Godard le prend pour Alphaville. prends Misraki. Mais il y a, comme dans, partout, à chaque moment de la musique, il y a une nouvelle génération de gens, Michel Legrand, dont on a pu écouter Rafle sur la ville, qui est une des premières partitions de jazz pour grand orchestre. Il y aura Georges Delerue, Antoine Duhamel, tous ces compositeurs qui vont accompagner les films de Godard ou de Truffaut.
Justement, puisque vous évoquez Godard, on dit souvent que Godard a révolutionné le son, peut-être même l'utilisation de la musique dans ses films. De quelle façon ?
Godard avait eu des rapports formidables avec Antoine Duhamel. Il m'en parlait, d'ailleurs, il était épaté de la manière qu'avait Godard d'appréhender la musique. Contrairement à l'usage habituel, il ne lui demandait pas des minutages précis pour coller. Il lui a demandé d'écrire une suite. Et Godard, avec différentes couleurs, différents rythmes, et Godard, il piochait dedans. Il prenait tout d'un coup un bout, puis...
À un moment qui l'intéressait.
Il y a des surgissements de cette musique très lyrique. Et puis tout d'un coup, il l'arrête, de manière inattendue. Il arrête aussi le son, le dialogue, et puis il va la reprendre. C'est un travail tout à fait formidable. Je dois dire, honnêtement, que d'autres l'ont fait avant. C'est quand on regarde l'histoire du cinéma, on s'aperçoit que Duvivier approche le son de la même façon, même dans Golgotha, où tout d'un coup, la caméra s'approche de Hérode, et d'un seul coup, pendant, je sais pas, 15 secondes, Duvivier coupe absolument le son.
Allez, on va écouter quelques notes de cette musique de Pierrot le Fou, de Godard, 1965, musique d'Antoine Durand. Bertrand Tavernier, ces trois journées de concerts à Radio France, comment les avez-vous pensées ? Comment vous avez fait votre choix ? C'est en fonction des films, de la musique, de l'émotion que vous avez ressentie ? Comment vous êtes-vous débrouillé ?
C'est d'abord en fonction du matériel disponible.
Ah oui, compte tenu de ce que vous avez dit tout à l'heure, par exemple.
Et il reste encore des dizaines de films où il faudrait réenregistrer la musique de film, et souvent des partitions très, très extraordinaires. Et puis... Il y a eu une décision avec Stéphane Le Rouge, avec Bruno Fontaine, avec Michel Aurier, qui a été l'initiateur de ce projet pour Radio France. C'est d'avoir de faire une journée sur les compositeurs de musique de film, les vrais, Vamparis, Duhamel, Delerue, Maurice
dont on a
Jaubert,
parlé, là, oui.
Et puis le second
la deuxième
concert,
qui a lieu aujourd'hui.
Oui, c'est les symphonistes. Les musiciens qui étaient des musiciens de concert, des musiciens classiques, et qui étaient aussi passionnés par le cinéma. Arthur Honegger, qui a écrit des partitions extraordinaires pour le cinéma.
Henri Dutilleux,
La fille du diable. Et moi, j'espère qu'un jour, on pourra faire ressurgir Le café du cadran, qui est sa seule partition de jazz de Henri Dutilleux.
Jacques Ibert,
Roland Manuel, Jean-Jacques Grunewald, qui était un organiste célèbre, qui a écrit les deux premiers films de Bresson, dont on ne trouve pas la musique, Les Anges du Péché, Les Dames du Bois de Boulogne, qui sont des musiques magnifiques. Voilà, je voulais jeter un coup de projecteur sur ces grands symphonistes qui, contrairement à un espèce de lieu commun, avaient pris le cinéma très, très au sérieux.
Est-ce que les relations entre les compositeurs et les réalisateurs, du fait que ce soit un compositeur pour les films ou que ce soit un symphoniste qui compose à un moment pour un réalisateur, changent ? Parce qu'on sait aussi que l'histoire des relations entre réalisateurs et compositeurs, c'est une histoire de compagnonnage très célèbre. Jacques Ibert avec Julien Duvivier, oui. Maurice Jaubert avec Marcel Carné et évidemment Prévert, Renoir avec Cosma, etc., etc.
Mais ça a été la même
Est-ce
chose.
Est-ce que ça change ? C'est la même chose ?
C'est la même chose. Roland Manuel a été très proche de Jean Grémillon, par exemple. Il écrira la musique de plusieurs de ses films. Henri Dutilleux disait un bien fou d'Henri Decoing. Il a fait la musique de deux films de Decoing et il disait que Decoing était tout à fait intelligent, avait un goût de la musique, avait un amour de la musique et qu'il s'était entendu, que c'est même Decoing qui lui a suggéré dans La fille du diable d'incorporer les petits sifflements que font les enfants dans le film pour que ce soit ça fasse démarrer le thème de la musique. Et il disait que c'était une très 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 bonne idée. Donc oui, les rapports ont été très bons. Il y a beaucoup de metteurs en scène dans le cinéma français qui s'intéressaient à la musique, qui avaient des rapports suivis. Duvivier, il paraît-il, me disait son fils, a toute une correspondance avec Ibert, Jean Vienner, avec Maurice Jaubert. Il y avait un rapport. Il met Duvivier, met le nom de Jacques Ibert, musique Jacques Ibert, sur le premier carton du film, de Golgotha. Ce qui est quelque chose de tout à fait d'extraordinaire. Mais pareil, René Clair a eu un compagnonnage formidable avec Georges Vamparis. Comme là, sur les Belles de Nuit, sur de très très nombreux films. Donc il y avait un rapport, même dans des films commerciaux, par exemple, toute une série de comédies d'avant-guerre de Jean Boyer. Jean Boyer et Georges Vamparis s'entendaient comme larron en phare. Et ils ont écrit certaines des meilleures chansons du cinéma français des années 30.
Bertrand Tavernier, on parle des années 30, on parle des années 50, 60. Si je ne m'abuse, le programme de ces trois journées ne dépasse pas les années 70, peut-être 75, avec non. Le vieux fusil de Robert Henrico.
Non, il n'y a pas le vieux fusil. Il y a le vieux fusil. Bon.
Ah, c'était annoncé hier soir, en tout cas.
Il y a le dernier domicile connu, en tous les cas.
Ah, dernier domicile connu, film de José Giovanni, mais oui. 70, bon. De François de Roubaix. Pourquoi d'abord vous êtes arrêté aux années 70?
Ce concert était la suite de Voyage à travers le cinéma français. Ce sont mes films qui ont, disons, guidé. Et il y avait, d'abord, je pense qu'il faut à chaque fois se fixer des contraintes, parce que à ce moment-là, sinon...
C'est déjà le cinéma français et pas le cinéma tout
Sinon, il faudrait des 18 concerts. Donc, c'était 30-70, en gros. Voilà. Et 70, pourquoi je m'arrêtais dans mes documentaires? Parce qu'après, je deviens metteur en scène, donc il y a conflit d'intérêts. Donc je fais comme Scorsese. D'ailleurs, Scorsese s'arrête dans son histoire du cinéma américain au moment où il devient metteur en scène. Il ne parle plus du cinéma américain. Ça. Mais je trouve que c'est très bien ça. Parce que les grands manques, les trous énormes, sont dans les années 30, 40, 50. Là, après... Les compositeurs modernes font plus attention. Alexandre Desplat, par exemple, tout ce qu'il a écrit est enregistré. Gabriel Yared aussi, enfin tout le... Là, maintenant, des gens comme Cosma ou Grunewald ne faisaient pas... étaient moins précautionneux.
Qu'est-ce qu'une musique ratée pour vous, Bertrand Tavernier? Là, on vient d'entendre « Dernier domicile connu » de José Giovanni, par exemple.
C'est pas seulement une musique dont on retient le thème. Comme disaient certains producteurs, une musique qu'on peut siffler. Parce qu'il y a des musiques admirables qui n'ont pas de thème. Vous ne pouvez pas chantonner « Le jour se lève ». Et c'est une partition grandiose. Vous ne pouvez pas la partition des « Dé mineurs » de Marco Beltrami n'a aucune mélodie. Et c'est une extraordinaire musique de film qui est une suite de bruits, de sons, qui prolongent les bruits du film, qui les commentent, qui les mettent en perspective. Donc c'est extrêmement vaste.
Il y a aussi les notes de guitare de Jeux Interdits qu'on peut retenir, mais oui, ça ne fait pas une musique réussie pour autant.
Je dirais qu'une musique de film réussie, c'est une musique qui sait trouver le cœur du film.
Allez, on vous retrouve dans 2 minutes. Merci beaucoup Bertrand Tavernier. Et on retrouve notre invité Bertrand Tavernier, invité par Radio France à une programmation exceptionnelle de 3 jours de concerts qui sont autant de voyages à travers le cinéma français en musique. On commence justement cette nouvelle année, Bertrand Tavernier. Et comme c'est une nouvelle année, j'ai un peu envie de vous demander sous quels auspices commençons-nous l'année pour le cinéma français? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous trouvez que le cinéma français se porte bien, qu'il est vivant, qu'il est diversifié, ou que le verre est à moitié vide?
Je pense que le cinéma français est toujours, comme à ses débuts, un peu en crise, et qu'en même temps, il y a une santé créatrice. Il y a des films très variés. Ça va de Jacques Audiard, Stéphane Brisé, à certains films plus intimistes ou quelquefois cocasses. C'est un cinéma qui, c'est difficile. Il y a la concurrence est rude et surtout les moyens d'exploitation sont en train de changer. Donc là, on est en train de vivre. On est en train de traverser des rapides.
Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont en train de changer? Dans quel sens? Qu'est-ce qui se passe?
Avec la concurrence de Netflix, d'Amazon, toute l'histoire de la chronologie des médias qu'il faudrait revoir. Il est quand même tout à fait paradoxal qu'un des plus grands films de cette année, qui est Roma, est un film qui ne peut pas concourir. Qui est
vu sur Netflix exclusivement.
Oui, et il faudrait un jour que Netflix... Mais Netflix ont admis de le sortir 4 semaines aux États-Unis. Donc il y a un moyen, on peut arriver à les faire bouger. Je pense que c'est ça l'avenir. Il faudra que Netflix fasse un pas et que nous on fasse un pas pour que ces films soient vus en salle. C'est impossible de juger Roma autrement qu'en salle, parce que c'est un film tellement épique, tellement spectaculaire, dans l'intimisme. Donc c'est dur, mais je vois qu'il y a des metteurs en scène qui continuent à se battre. On m'a dit énormément de bien du nouveau film d'Ozon, du nouveau film de Benoît Jacquot, du nouveau film d'Assayas.
Qui sort la semaine prochaine.
Oui, là, donc
Double Vie.
Le cinéma français, on ne cesse de l'enterrer.
Depuis au moins 20 ans, voire depuis 40 ses débuts,
ans,
oui.
Depuis ses débuts.
Qu'on annonce la fin du cinéma.
Les gens qui l'enterrent meurent souvent avant lui.
Le fait, Bertrand Tavernier, selon le bilan du CNC, le fait que la fréquentation des salles a baissé en 2018 en France, mais que la France reste le premier marché du cinéma européen, oui. C'est vrai qu'à côté il s'effondre plutôt, et que quelques films français ont enregistré d'excellents résultats. Oui. Est-ce que cela vous fait plaisir de voir que le succès est dû à des comédies populaires comme Les Tuches 3 qui ont fait 5 millions d'entrées?
Qui plaît beaucoup à Bruno Le Maire. On a le ministre de l'économie qui est devenu cinéphile et qui a dit que c'était un grand film populaire. Je me plierais, je n'oserais pas discuter la pertinence et la connaissance du cinéma qu'a Bruno Le Maire.
Est-ce que ça permet, malgré tout, Bertrand Tavernier, nos comments, est-ce que ça permet cette énorme diversité de la production française? Est-ce que le fait qu'il y ait quand même justement quelques grands succès permet la diversité? Ou est-ce que c'est très très difficile aujourd'hui d'obtenir des financements pour des films dits du milieu?
Ça a toujours été difficile, mais c'est peut-être plus difficile maintenant, ça a toujours été difficile. Vous savez, à l'époque du Jour se lève ou du Quai des Brumes, l'énorme succès, c'était Ma Tante de Honfleur. Voilà. Qui se souvient de Ma Tante de Honfleur? Le Jour se lève faisait 20, 30, 50 fois moins d'entrées que ces films-là. Donc,
de ce point de vue-là, ça n'a pas beaucoup changé.
Non, les choses n'ont pas changé. Et pourtant, où est la création? Elle est vraiment du côté de Rollin, de même que là, maintenant, la création, elle est du côté d'Assayas, elle est du côté de Benoît Jacquot, elle est du côté de Stéphane Brisé, elle est dans tous ces films, de Jacques Audiard, de tous ces films. Et puis, il y a, de temps en temps, il y a aussi, il faut pas non plus, il y a des comédies qui sont réussies. En liberté de Salvadori est une très très bonne comédie.
Le Grand Bain a fait...
Le Grand Bain est un film qui...
plus de 4 millions d'entrées.
Oui, et il contient des scènes, moi, qui m'ont fait pleurer de rire. Leïla Bekti, dedans, elle m'a fait pleurer de rire dans Le Grand Bain. Et puis, à côté du Grand Bain, vous avez Pupille, qui est un film tout à fait délicat, intéressant, qui parle de choses très très intimes. Vous avez un film noir de Éric Zonka, Fleuve Noir, qui a été, je trouve, tout à fait sous-estimé, où Vincent Cassel est magnifique, magnifique.
Je voudrais quand même qu'on termine avec une musique d'un de vos films. Oui. C'est, d'ailleurs, c'est vous qui l'avez choisi. C'est une musique composée par Philippe Sard pour votre film L627.
Ah, c'est une musique que j'adore. J'adore. Je me souviens de l'enregistrement à Londres. C'était extraordinaire, avec un orchestre qui était composé de musiciens baroques. Il y avait une viole de gambe, un luth, etc. Une batterie rock, sax, trombone, et un mélange de thèmes qui allait du tango à des pulsations de jazz, de la java. Je trouvais que c'était une musique qui traduisait le côté très mouvant, le sol très mouvant sur lequel marchaient les personnages.
Un grand merci à vous, Bertrand Tavernier,
merci
d'être venu ce matin nous parler de ces trois journées de musique et de films et de cinéma français à Radio France. On peut réécouter le concert d'hier soir sur France Musique, sur le site de France Musique. Ce soir à 20h aura lieu dans l'auditorium de Radio France avec l'Orchestre National de France un concert de La Belle et la Bête aux Enfants du Paradis dont on a parlé avec les grands symphonistes. Et puis demain, un concert consacré aux grandes chansons. Tiens, on n'a pas parlé des grandes chansons, des grandes chansons du cinéma français. Avec Alexis Hachka, Olivia Ruiz et Christian Olivier des Têtes Raides. Et ce concert aura lieu à 18h. Bien entendu, toutes les informations sont sur le site de Radio France et nous en reprendrons une partie sur le site des Matins du Samedi. Merci à vous encore.
Merci.